Gloire au Seigneur. Ouvrons le Saint-Livre dans l'Évangile de Jean au chapitre 6 et à partir du verset 1er, nous lisons ensemble. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait des miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là il s'assit avec ses disciples. Or la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en ait reçu un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes, ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge après que tous eurent mangé. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde ». Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Amen. C'est un texte que nous connaissons et dans un autre évangile, nous voyons la compassion de Jésus-Christ puisqu'à un autre moment, il est écrit que Jésus fut ému de compassion à la vue de cette foule. Et pour introduire ces instants, il y a une question que va poser Jésus-Christ à Philippe qui doit au premier abord quand même nous interpeller. Dans Jean chapitre 1, il est question de cette rencontre avec Philippe. La rencontre fut brève, mais on voit de suite que dans le cœur de Philippe, il y a eu un écho, puisque Jésus s'est présenté à Philippe. Philippe l'a vu, Jésus lui a dit « Suis-moi ». Deux mots. Et on voit que Philippe va le suivre. On voit qu'il va se passer quelque chose dans le cœur de Philippe, et vous allez voir pourquoi j'ai souhaité que l'on puisse voir ensemble ces quelques passages, vous pouvez le lire, c'est dans Jean chapitre 1. Et Philippe, qui va être touché dans son cœur, va aller voir son compagnon, Nathanaël, en lui disant une déclaration extraordinaire que l'on connaît, je le relis pour ceux qui peut-être l'ont pas en tête. « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » On voit que cette rencontre que Philippe a eue avec Jésus-Christ a été marquante pour sa vie, de la même manière que cet après-midi, comme l'a présenté Michaël à l'introduction de ses chants, ça peut être pour nous aussi une rencontre particulière. C'est ce Philippe qui va dire à Nathanaël qui est hésité sur la réalité de cette rencontre, c'est Philippe qui va dire « mais viens et vois ». Cette invitation qu'il y a, encore aujourd'hui disponible, de venir s'approcher pour voir si effectivement Jésus-Christ est celui qui peut nous libérer. Et vous allez voir où je vais en arriver, parce que si nous sommes d'accord, c'est pas cela le but de ce message, mais quand même ça mérite qu'on s'y attarde. Si Philippe a fait cette déclaration extraordinaire, il y a quelque chose dans sa déclaration qui mérite quand même qu'on puisse réfléchir à cela. Et c'est suite à cette réflexion que nous pouvons peut-être mieux comprendre pourquoi, à ce moment précis de l'histoire, Jésus va lui poser cette question. Parce que si pour Philippe, Jésus était le prophète, était la personne envoyée de Dieu, il va quand même le présenter comme Jésus de Nazareth, le fils de Joseph. Et cet après-midi, il ne faut pas que pour nous, Jésus reste le fils de Joseph. C'est très bien de reconnaître en la personne de Jésus-Christ un grand prophète, celui qui est envoyé de Dieu, mais il ne faut pas que ça s'arrête là. Ce n'est pas possible, parce qu'il manquera toujours quelque chose dans notre vie par rapport à l'œuvre de Jésus-Christ. On connaît ce verset. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Et il n'est pas écrit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné le fils de Joseph. » Ce n'est pas ça qui est écrit. Et cette introduction pour arriver donc à Jean chapitre 6, ce texte que nous avons lu, et peut-être que vous vous êtes déjà posé la question, mais pourquoi est-ce que Jésus pose cette question à Philippe? Est-ce qu'il n'aurait pas pu poser la question à quelqu'un d'autre? Et je suis persuadé, moi, c'est ma propre analyse, vous pouvez ou ne pas être d'accord avec cela, mais ce n'est pas le plus important dans ce texte, mais quand même, on voit que Jésus voulait interpeller personnellement Philippe. Et d'ailleurs, c'est écrit, puisque nous l'avons lu, que Jésus va lui poser cette question afin de voir ce qu'il y avait vraiment dans son cœur et qu'est-ce que Philippe allait répondre. Vous savez, il y a des situations dans la vie, des circonstances qui peuvent aussi nous éprouver. Il y a des circonstances, des situations qui semblent impossibles, des situations que l'on aimerait ne pas traverser, ne pas vivre. Et on pourrait donner beaucoup d'exemples à cela. Toujours est-il, c'est que ces situations, ces circonstances ne sont pas là pour nous faire sombrer dans la dépression, dans l'angoisse, mais elles sont là afin que nous puissions réfléchir sur la réalité de notre vie et peut-être, en tout cas si vous êtes là cet après-midi, sur qu'est-ce que nous avons fait de Jésus-Christ, qu'est-ce que nous faisons du domaine spirituel dans notre vie. Parce que, en tout cas, nous sommes tous d'accord que ce que va dire Philippe, on est tous amenés à dire la même chose. Face à 5000 personnes, si demain on disait, ben voilà, dimanche prochain on fait une agape pour 5000 personnes, est-ce que Nicolas, tu peux aller acheter du pain pour 5000 personnes? Je pense que Nicolas serait embarrassé. Et c'est un petit peu ce qu'a vécu Philippe. Il y a des choses qui sont impossibles dans la vie. Il y a des choses sur lesquelles nous sommes bien limités. Il y a des événements, des éléments où on sent vite qu'on est dépassé. Et la réponse de Philippe, et je la retraduis parce que c'est un peu ce qu'il a voulu dire, même si on avait tout l'argent d'une année de travail, une année de salaire, ça ne suffirait pas pour pourvoir aux besoins de la foule. Même si on avait tout l'or du monde, ça ne pourra pas suffire. Cet après-midi, j'aimerais pouvoir vous dire que le monde ne suffira jamais pour le domaine spirituel. C'est pas possible. C'est impossible. Le monde ne pourra jamais suffire pour combler le vide dans notre âme. Et cette réponse de Philippe, ça peut être notre réponse dans divers domaines de notre vie. Ah, peut-être que si je pouvais faire ça, et même dans notre réflexion, on voit qu'on est vite limité. Et c'est ce que Philippe a dit, il a confessé son incapacité. On est bien faible devant nos besoins, notre propre cœur, notre propre âme. Peut-être ce qui se passe au fond de notre vie, les difficultés que nous traversons. On est bien faible devant tout ce qui se passe. Et au travers de ce texte, au travers de ces chants, de ces moments, il y a une seule direction qui doit émerger de tout cela, c'est quand même ce que Jésus-Christ a fait sur le bois de la croix. Nous sommes d'accord pour dire que ici-bas, il y a des choses que nous pouvons faire, il existe bien des médicaments. L'être humain est capable de faire beaucoup d'opérations. On arrive à des progrès extraordinaires dans le domaine de la médecine, mais l'âme, personne ne peut la guérir. Notre cœur brisé ne peut pas être réparé par les hommes. Le péché ne peut pas être traité par les hommes. C'est impossible. Et nous avons besoin de comprendre que même si on pouvait avoir tout un tas de choses ici-bas, même si ce jour-là, Philippe aurait pu répondre au Seigneur, « Mais voilà, je viens d'avoir un héritage, ça tombe bien, je vais pouvoir répondre aux besoins de cette foule, demain il y aurait eu autre chose. » Et peut-être plusieurs cet après-midi ont vécu cette réalité, c'est que dans notre vie, on arrive à trouver une solution aujourd'hui, demain, mais après-demain, rapidement, on s'essouffle. On a besoin de comprendre que la solution est en Jésus-Christ. Philippe avait besoin d'évoluer dans ce sens-là. C'était un disciple choisi du Seigneur. Il a répondu à cet appel, et on le verra en conclusion, qu'il avait besoin lui aussi de cheminer pour apprendre à mieux connaître le Seigneur Jésus-Christ. La situation aurait pu être bloquée d'un point de vue humain, pas pour les hommes, et il y a un jeune homme qui fait son apparition. André, un disciple, le frère de Simon, nous l'avons lu ensemble, de Simon-Pierre, dit voilà, écoute, c'est sûr que Philippe ne peut pas aller faire les courses pour 5000 personnes. Voilà ce qu'il y a. Un jeune homme, on connaît cette histoire, il a 5 pains d'orge et 2 poissons. Et la réaction, et c'est cela le cœur de ce message cet après-midi, la réaction d'André, c'est ce qui doit nous interpeller. Parce que alors qu'il fait ce constat, Philippe a échoué, Philippe a été placé face à son incapacité de pouvoir régler des situations. André, lui, a quand même eu un certain audace parce qu'il a fait venir, il a compris que peut-être il pouvait y avoir quelque chose. Mais voilà ce qu'il va proclamer. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? 5 pains d'orge, 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour 5000 personnes? Et j'allais dire cette interrogation, mais ce qu'il vient de dire là, cette question, cette exclamation, c'est ce qui doit être notre exclamation peut-être pour cet après-midi, notre réflexion, parce qu'au travers de ce que lui va dire, peut-être qu'on se retrouve dans notre propre vie face à l'œuvre de Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ pour tant de gens? Qu'est-ce que la croix pour ma vie? Qu'est-ce que Jésus-Christ peut faire face à tous mes besoins? Qu'est-ce que l'œuvre de Jésus-Christ? Qu'est-ce que la croix face à mon angoisse, face à mon désespoir, face à mes problèmes, face à ma famille, face à mes enfants? C'est quelque chose que nous avons pu dire à un moment donné dans notre existence, dans notre vie. Et il faut que nous puissions être concerné par ce que André a dit à ce moment-là, et peut-être ça fait écho dans notre vie. Pour le monde, pour les Français, les Toulousains, pour moi, qu'est-ce que Jésus-Christ? C'est une question qui mérite quand même qu'on puisse y répondre cet après-midi d'une manière personnelle. D'ailleurs, dans la manière dont André va dire ça, il y avait Jésus, je ne sais pas si on s'imagine la scène, il y avait Jésus, il y avait les disciples, et il y avait 5000 hommes. Donc, ça sous-entend qu'il y avait plus de personnes. 5000 hommes présents. C'est comme si André disait, mais c'est insignifiant. 5 pains, 2 poissons, c'est insignifiant. Ça ne peut pas répondre aux besoins. Combien de personnes ont pensé ça? Combien de fois, peut-être, vous, dans votre propre existence, vous avez dit, mais Jésus, c'est insignifiant pour moi. Ça ne peut rien faire. La croix, c'est insignifiant pour moi. Ça ne pourra jamais changer ma vie. Les besoins sont là, et vous savez vous-même les besoins que vous pouvez avoir. Vous-même, vous pouvez avoir cette réalité, cette conscience de ce mal-être qui peut être en vous. Vous pouvez mieux que quiconque savoir ce avec quoi vous vivez. Vous vous réveillez chaque matin Peut-être c'est les pleurs, peut-être c'est l'angoisse, peut-être c'est la dépression. Et combien de personnes aujourd'hui sont obligées de vivre avec des dizaines de cachets, avec plusieurs cachets pour être apaisées, pour trouver le sommeil. Et face à toutes ces problématiques, bien sûr, face à notre propre péché, il y a toujours cette phrase peut-être qui revient au fond de nous, mais qu'est-ce que la croix, c'est insignifiant pour moi. Laissez-moi vous dire que d'un point de vue humain, ça peut être insignifiant, de la même manière que pour André, ce jour-là, 5 pains, 2 poissons, c'était insignifiant. Qu'est-ce que cela ? Qu'est-ce que cela ? Mais on est là cet après-midi pour vous dire que c'est tout ce qu'il vous faut, la croix. Jésus-Christ, c'est tout ce dont vous avez besoin dans votre vie, pas d'autre chose. Parce que, bien sûr, si on regarde la croix comme insignifiante, si on regarde l'œuvre de Jésus-Christ comme rien du tout pour notre vie, on est obligé de chercher dans le monde de quoi assoiffer, de quoi étancher, pardon, notre soif de paix. C'est automatique, c'est obligé. Si on regarde l'œuvre de Jésus-Christ, la parole de Dieu, comme insignifiante, nous sommes obligés d'aller chercher de quoi combler le vide qu'il y a en nous, dans le monde. Il y a ce texte, on pourrait le lire ensemble, c'est dans Ésaïe 59. Ésaïe 59, à partir du verset 8. Voilà ce constat. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Il n'y a point de justice dans leur voie. Ils prennent des sentiers détournés. Quiconque y marche ne connaît point la paix. C'est pourquoi l'arrêt de la délivrance est loin de nous et le salut ne nous atteint pas. Nous attendons la lumière et voici les ténèbres, la clarté et nous marchons dans l'obscurité. Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point Dieu. Nous chancelons à midi comme de nuit, au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Vous savez, on ne se connaît pas vraiment. Quelques-uns, on se connaît. Mais pour d'autres, on ne sait pas. Et peut-être vous êtes surpris par cette réalité. Mais c'est un fait. La parole de Dieu nous enseigne sur cela. Si on regarde la croix comme insignifiante, mais qu'est-ce que cela a pour tant de gens, pour le monde? L'homme a envie de trouver des solutions. L'homme a envie d'inventer, d'améliorer le quotidien, d'augmenter son espérance de vie. L'homme a envie de trouver des solutions au mal-être. L'homme a envie de chercher la lumière. Mais la réalité, ce que Dieu dit, ce que Dieu est en train d'exprimer, c'est que on a beau attendre la lumière, en dehors de Jésus-Christ, il n'y a que ténèbres. On a beau chercher une direction en se disant « mais on peut se passer de Dieu, je n'ai pas besoin de Jésus-Christ, je n'ai pas besoin de l'œuvre de la croix, c'est insignifiant pour moi, je vais chercher dans le monde autre chose qui pourra combler mon âme, mon être. » La Bible dit qu'on tâtonne comme si on était aveugle. La Bible dit qu'on ne peut pas connaître le chemin de la paix sans rencontrer d'une manière personnelle Jésus-Christ. Notre péché est là, dans notre être, dans notre vie, et on peut essayer de faire tout un tas de choses. Il n'en reste pas moins que nous sommes séparés de Dieu. L'apôtre Paul va exprimer cela d'une manière différente. Il va dire, mais la croix, c'est soit une folie. Et peut-être à la lumière de ce qu'on partage, on pourrait dire la croix, c'est soit pour les uns insignifiant, mais si vous la prenez comme une folie, si vous la prenez comme insignifiante, alors vous prenez le chemin de la perdition. C'est 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18. Mais la croix, si vous l'acceptez, si vous comprenez que c'est tout ce dont vous avez besoin dans votre vie, si vous comprenez que même si vous n'avez rien en vous, Même si vous vous sentez tellement sale, tellement vide, vous n'avez pas besoin de changer, de faire quelque chose pour venir devant le Seigneur, parce que Jésus-Christ a tout accompli sur le bois de la croix. Et les chants que nous avons chantés présentent cela. Et nous avons besoin, peut-être vous, d'une manière personnelle, cet après-midi, vous avez besoin de comprendre que la croix, il faut que ça devienne cette puissance de Dieu pour que ça puisse vous conduire au salut. Vous avez besoin d'appréhender les choses, non pas d'une manière humaine, non pas avec un regard humain, en analysant tout ce qui se passe, en analysant la parole de Dieu, mais en la prenant avec foi, en disant « Seigneur, c'est vrai qu'il n'y a rien ». C'est vrai que pour le monde, la croix, c'est peut-être une folie. Mais vous, cet après-midi, vous avez peut-être cette responsabilité, pour une fois, de peut-être changer votre façon de voir en disant « Mais je refuse que ça continue d'être une folie. Je refuse que la croix continue d'être insignifiante dans ma vie. Je refuse de laisser Jésus-Christ de côté. » La croix, ça nous amène... Et cet après-midi, cela va vous amener automatiquement à prendre position. Il n'est pas question dans ce verset de dire « mais voilà, la croix, ça peut être neutre. Jésus-Christ, ça peut être, il peut être là, loin de vous, mais ça va aller. » Il n'est pas question d'un espace entre la lumière et les ténèbres. La croix, ça doit vous positionner. C'est soit une folie, ou soit une puissance. C'est soit ce qui va vous sauver, ou soit ce qui va vous condamner, parce que vous avez refusé peut-être de faire ce pas de foi en disant « Seigneur, voilà trop longtemps que je n'ai rien à manger. Seigneur, voilà trop longtemps que peut-être je t'ai appréhendé comme un homme éloquent, comme un prophète, comme celui effectivement qui avait été envoyé de Dieu, comme d'autres hommes avant, mais pas comme le Fils de Dieu. Vous devez prendre Jésus tel qu'il est. C'est le Fils de Dieu. Et il s'est dépouillé pour nous offrir la vie. C'est cela le message de l'Évangile. Vous savez, Jésus-Christ, suite à cette déclaration d'André, mais qu'est-ce que cela? Qu'est-ce que cela pour tant de gens? Jésus n'est pas rentré dans une explication. Dans la doctrine, Jésus ne s'est pas représenté en disant « Mais qu'est-ce que tu me racontes, André? C'est moi le Fils de Dieu. Je peux faire ce qu'il me plaît. Je peux faire des miracles extraordinaires. » Jésus n'est pas rentré dans toutes ces discussions. La seule chose qu'il va dire, c'est « Mais faites-les asseoir. Faites-les asseoir. » Et peut-être c'est pour quelqu'un cet après-midi, parce que, voyez-vous, c'est peut-être ce qui manque dans une étape, dans la vie de quelqu'un, de s'asseoir, peut-être je vais le dire différemment, de s'abaisser devant Jésus-Christ. On pourrait littéralement, d'autres traductions, et on comprend que « asseoir », ça correspond à cela, c'est passer d'un lieu élevé à un lieu plus bas. Et c'est une expression de cœur, c'est notre vie qui doit être comme ça. Le salut, c'est pas un dû. Dieu nous devait rien. Dieu, Jésus-Christ, n'était pas obligé de nourrir cette foule. Jésus-Christ n'était pas obligé de guérir les malades. Jésus-Christ n'était pas obligé de rendre la vue à tous ceux qui tâtonnaient pour chercher leur chemin. Jésus-Christ, en aucun cas, n'a été obligé de nous montrer le chemin de la paix. Il n'était pas obligé. Le salut, ce n'est pas un dû, mais c'est une grâce. C'est le don de Dieu. Et on doit peut-être faire ce que cette foule a fait ce jour-là. S'asseoir, s'abaisser, se repentir de nos péchés en disant « Seigneur, je comprends, je considère ce que tu as accompli sur le bois de la croix. Seigneur, je n'ai rien à t'offrir, sinon un cœur troublé, un cœur rempli de mon péché. Mais Seigneur, tel que je suis, je viens à toi. » C'est cela le message de l'Évangile, c'est que ce n'est pas nous qui faisons une fleur au Seigneur, C'est pas nous qui faisons une grâce à Dieu, c'est lui qui s'est offert sur le bois de la croix, son sang a coulé pour que nous puissions voir nos péchés être pardonnés. Il y a cette précision dans ce passage, et on l'a lu ensemble, peut-être vous l'avez déjà remarqué, Jésus distribua à ceux qui étaient assis, autant qu'ils en voulurent, mais à ceux qui étaient assis. Je ne sais pas, bon, ce n'est pas écrit, mais peut-être ce jour-là, il y en a qui ont dit, mais moi je ne veux pas m'asseoir, c'est bon. Moi, je n'ai pas besoin. Moi, je n'ai pas besoin de me repentir. Moi, je n'ai pas besoin. Je lis la Bible, je viens à l'église, je n'ai pas besoin de demander pardon. Ce n'est pas ça. Jésus distribua à ceux qui étaient assis. Pour nous, aujourd'hui, cet après-midi, vous comprendrez que ça signifie que le salut est là pour ceux qui se repentent, peut-être pour ceux qui ont besoin de s'humilier une fois de plus, ou peut-être la première fois, mais pour ceux qui comprennent qu'on a besoin de s'abaisser devant le roi des rois. Qu'est-ce que cela pour tant de gens ? Pour les uns, c'est insignifiant, c'est une folie. Pour les autres, c'est la puissance de Dieu. La réunion va se terminer dans quelques instants. Et déjà dans votre cœur, vous vous positionnez. Le Seigneur voit comment vous prenez ces paroles. C'est lui qui dit ça, au travers de l'apôtre Paul, mais c'est le Saint-Esprit. Si pour vous la croix reste une folie, vous êtes bien malheureux cet après-midi. Mais si c'est la puissance de Dieu, merci Seigneur. Je termine juste avec cette pensée. Je vous avais dit qu'on reviendrait sur Philippe, parce que Philippe, il questionne quand même. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà intéressé à Philippe, parce qu'on voit que dans ce texte, Jésus va lui poser cette question. Et on le retrouve, on peut le lire, c'est juste un petit peu après, c'est dans Jean chapitre 14. On peut lire à partir du verset 6. Jésus lui dit, donc là c'est pas à Philippe, c'est à Thomas, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. » Et Philippe arrive et dit, « Seigneur, montre-nous le Père. » Et cela nous suffit. Et voilà la réponse de Jésus. Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Et tu ne m'as pas connu. Et vous savez, j'aurais pu m'arrêter avant dans ce message. Mais peut-être que c'est pour une personne cet après-midi. Il y a si longtemps que vous venez à l'église, que vous lisez la parole, que vous entendez ses prédications, que vous écoutez des prédications sur Internet même. Mais est-ce que vous connaissez Jésus-Christ ? Parce que le jour où le Seigneur va revenir, ce n'est pas ceux qui auront été à l'église le plus grand nombre de fois, ce n'est pas ceux qui auront posé quelques questions pertinentes, ce n'est pas ceux qui auront lu la Bible le plus de fois, mais c'est ceux qui connaissent Jésus-Christ. Et vous voyez, Philippe avait besoin encore de grandir, d'évoluer. On le retrouvera après, et après on comprend que ça va. Mais ne restez pas encore loin, ne restez pas à vous poser toujours les mêmes questions, ne restez pas en train d'analyser, prenez avec foi, comprenez qu'il n'y a rien. On pourrait rassembler tout ce qu'il y a de meilleur dans ce monde. On pourrait avoir les plus grosses fortunes. On pourrait avoir les meilleurs je ne sais pas quoi. Ça ne suffirait pas pour nous accorder la paix intérieure. Ça ne suffirait pas pour combler ce vide. Il n'y a que Jésus-Christ qui puisse vous donner le pardon, qui puisse faire que vous soyez réconciliés avec Dieu. Que Jésus-Christ et l'œuvre à la croix, son sacrifice. On prie le Seigneur un instant. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta délicatesse. Merci parce que tu nous parles. Tu sais toujours quelles paroles nous avons besoin d'entendre. Tu connais les cœurs cet après-midi, mon Dieu. Et je te prie, si dans ce lieu, il y a quelqu'un qui peut-être se disait cela, se posait ces questions, mais qu'est-ce que la croix pour tous mes problèmes, pour mon mal-être? Qu'est-ce que Jésus-Christ peut faire pour moi? Mon Dieu, je crois, nous croyons que par ton Saint-Esprit, tu peux parler à ce cœur, l'amener à abandonner tout ce qu'il a, tout ce qu'il tient dans sa vie, pour que tu puisses intervenir en lui. Seigneur, merci pour le pardon de nos péchés que tu nous offres. Merci pour ce salut extraordinaire, merveilleux. Merci parce que tu t'es offert pour chacun d'entre nous. Oui, nous voulons confesser que tu es le Fils de Dieu. Tu as les paroles de la vie éternelle et que c'est la vérité qui nous a franchis. Merci de te manifester cet après-midi et de sauver quelqu'un, de restaurer quelqu'un, de guérir quelqu'un. Mon Dieu, nous nous attendons à toi véritablement. À toi soit toute la gloire, mon Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.